Chapitre 19. Ludwig Wittgenstein. Le gros livre. Des faits, des faits, des faits, mais non de l'éthique. Ludwig Wittgenstein est né en 1889 dans l'une des familles les plus riches et cultivées de Vienne, et sans doute l'une des plus morbides. Sous l'égide d'un père exigeant et d'une mère anxieuse, la famille comptait 8 enfants, parmi lesquels 5 garçons, dont 3 finirent par se suicider. Un autre, Paul, devint le plus célèbre pianiste manchot, pour qui Ravel écrivit son concerto pour la main gauche. Quant au jeune Ludwig, après s'être lancé dans des études d'ingénieur en aéronautique, il découvrit et dévora les travaux de Bertrand Russell sur le problème des fondements des mathématiques et de la logique, se mit en tête de le résoudre, pour devenir quelques années plus tard l'un des philosophes les plus importants et fascinants du XXe siècle. Ce n'est pas si mal. Ludwig était le plus jeune de la fratrie, et il se trouve être aussi le Benjamin de la tribu de philosophes présentée dans ce livre. Le grand Russell, que je réserve pour le dernier chapitre, était de 17 ans son aîné, quoique Wittgenstein mourut le premier, emporté par le cancer en 1951. Les derniers mots qu'il prononça ont je ne sais quoi de simple et émouvant. Dites-leur que j'ai eu une vie merveilleuse. À bien des égards, Wittgenstein ressemble moins au philosophe universitaire de son époque qu'au sage un peu fou de l'Antiquité. Les témoignages de tous ceux qui l'ont connu dressent un portrait qui semble souvent à la limite du prodigieux. Russell décrivait dans son autobiographie l'effet que ce jeune Autrichien, débarqué de nulle part, lui fit dès leur première rencontre à Cambridge en 1911. Il était peut-être le plus parfait exemple que j'ai connu du génie comme on le conçoit traditionnellement, passionné, intense, profond et dominateur. Ce sentiment fut partagé par la plupart de ses contemporains. Les anecdotes rapportées au sujet de Wittgenstein sont parfois si saugrenues que je ne peux m'empêcher de songer qu'il ne manque que la patine du temps pour en faire de ces petites légendes philosophiques à la façon de Diogène ou Pyrrhon. L'une des plus célèbres concerne une discussion d'une dizaine de minutes entre le philosophe Karl Popper et Wittgenstein, au cours de laquelle celui-ci aurait saisi un tisonnier brûlant et l'aurait brandi sous le nez du conférencier en s'écriant « Donnez-moi un exemple de règle morale !» Et Karl Popper, dans ses mémoires, raconte avoir répondu « ne pas menacer les conférenciers invités avec un tisonnier ». Après quoi, Wittgenstein serait sorti en claquant la porte. Il y a en fait autant de versions de l'incident que de témoins de celui-ci, et la version de Popper, que je viens de résumer, est l'une des plus douteuses, car elle est précisément tout à son avantage. Conscient de son génie et excessivement intolérant à l'égard de tout ce qu'il percevait comme médiocre, Wittgenstein était sans doute assez insupportable et lui-même supportait assez mal la société des autres. Wittgenstein chercha tout au long de sa vie diverses formes de retraite, que ce soit dans la solitude proprement dite ou dans l'exercice d'une vie simple. Après la Première Guerre mondiale, où il s'enrôla volontairement dans une unité d'artillerie, non pas par patriotisme, mais fasciné par l'idée de côtoyer la mort, il fut instituteur, puis jardinier, et la vie monastique le tenta pour un temps. Plus tard encore, il se rendit en Union soviétique, où il refusa d'exercer un poste de professeur, préférant un travail manuel. Ce n'est qu'en surmontant de nombreuses réticences qu'il accepta, à diverses reprises au cours de sa vie, d'enseigner quelques années à Cambridge, avant de renoncer et de s'isoler à nouveau. Par ailleurs, héritant dans sa jeunesse d'une immense fortune à la mort de son père, il la distribua entièrement à ses amis et à sa famille, avec interdiction de la lui rendre. Mieux valait, selon lui, se débarrasser de ce fardeau. Voilà pour le portrait rapide de cette énigmatique figure de la philosophie du XXe siècle. Lorsque je m'efforce de présenter Wittgenstein et d'expliquer un de ses textes en cours, et cela m'est arrivé bien souvent car c'est un de mes auteurs de prédilection, je me le représente souvent au coin de la pièce, armé d'un tisonnier, proférant en allemand divers noms d'oiseaux et me reprochant de n'avoir, comme tous les autres, rien compris à ce qu'il écrivait. N'importe quel spécialiste d'un auteur comme Wittgenstein ou Nietzsche devrait contempler longuement l'idée que ces philosophes n'auraient probablement eu qu'un immense mépris pour tous ceux qui les étudient. Mais peu importe, je veux bien prendre le risque d'un coup de tisonnier de l'ombrageux Wittgenstein pour discuter d'un passage de sa conférence sur l'éthique. L'ouvrage connu sous ce titre est un texte des plus minces, à peine une dizaine de pages, qui retranscrit une conférence prononcée par Wittgenstein en 1929, alors qu'il était invité à Cambridge. Bien qu'il n'ait à cette date publié qu'un seul livre, une décennie plus tôt, intitulé en bon allemand « Tractatus Logico-Philosophicus », L'extraordinaire attention que cette œuvre avait attirée en Autriche aussi bien qu'en Angleterre, notamment grâce à l'appui de Russell, faisait déjà de Wittgenstein une sorte de célébrité philosophique. Wittgenstein avait toutefois refusé la publication de son texte précédé d'une préface de Russell qui, jugeait-il, n'avait rien compris à son œuvre. Quant à ce titre alambiqué, Tractatus Logico-Philosophicus, c'est le philosophe anglais George Moore qui aurait convaincu Wittgenstein de l'adopter, inspiré par le Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza. Le traité de Wittgenstein n'avait pourtant pas besoin de cela pour se rendre effrayant. Le Tractatus Logico-Philosophicus, écrit en partie pendant que Wittgenstein était au front dans l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale, ne prétendait rien de moins que résoudre absolument tous les problèmes philosophiques en montrant qu'ils naissent d'une mécompréhension de la logique de notre langage. Son but était de mettre un point final à la philosophie et de montrer au passage que ce n'était somme toute pas grand-chose. À première vue, le Tractatus est un bizarre petit traité de logique aux propositions souvent cryptiques, méticuleusement numérotées et dont toute l'ambition semble résumée dans l'une de ces dernières. 6.53. La méthode correcte en philosophie consisterait proprement en ceci, ne rien dire que ce qui se laisse dire, à savoir les propositions de la science de la nature, quelque chose qui par conséquent n'a rien à faire avec la philosophie, puis quand quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose de métaphysique, lui démontrer toujours qu'il a omis de donner dans ses propositions une signification à certains signes. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus. Autrement dit, la meilleure façon de philosopher est de se taire, puisque c'est à la science de parler. Un bon philosophe est un philosophe muet ou qui impose le silence au mauvais philosophe, à coups de tisonnier éventuellement. Quelques lignes plus loin, l'ouvrage se concluait sur son plus célèbre aphorisme « Sur ceux dont on ne peut parler, il faut garder le silence ». On attribue souvent le numéro 7 à cette proposition. C'est en effet le numéro qu'elle devrait avoir dans la logique de la numérotation du Tractatus Logico-Philosophicus, mais le texte ne l'indique pas, et c'est la seule proposition du traité à être dans ce cas. Toutes les autres sont bien numérotées. Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence, et donc le silence fut gardé. Après cet ouvrage, qui marqua la communauté philosophique, et surtout le cercle de Vienne, un dangereux gang de positivistes qui prenait un malin plaisir à malmener les métaphysiciens spéculants avides, Wittgenstein se retira presque complètement du débat philosophique durant une dizaine d'années. Ce n'est qu'en 1929, donc, qu'il accepta une invitation pour une conférence à Cambridge où il choisit de parler d'éthique, soit précisément ce dont on ne peut parler. Pour quelle raison ? Et comment parler du fait qu'on ne peut pas en parler? C'est justement pour parler de tout cela tant bien que mal qu'il proposera la fameuse expérience de pensée du gros livre. Wittgenstein nous dit « Supposez que l'un d'entre vous soit omniscient et que par conséquent il ait connaissance de tous les mouvements, de tous les corps, morts ou vivants, de ce monde, qu'il connaisse également toutes les dispositions d'esprit de tous les êtres humains à quelque époque qu'ils aient vécu, et qu'il ait écrit tout ce qu'il connaît dans un gros livre. Ce livre contiendrait la description complète du monde. » C'est ainsi que Wittgenstein introduit son expérience de pensée du gros livre dans sa conférence sur l'éthique de 1929. Le livre doit être bien gros, en effet, puisque c'est le monde qu'il contient. Dans ses moindres détails, à tous les niveaux, sous tous les aspects. Tous les faits y sont couchés sur le papier, des plus énormes aux plus microscopiques. Ou pour le dire autrement, ce gros livre contiendrait très exactement toute vérité dont on peut parler, toutes les propositions vraies exprimables dans quelque langage que ce soit. Tout bien considéré, ce gros livre devrait compter probablement plus de pages qu'il n'y a de particules dans l'univers, ce qui risque de décourager la plupart des imprimeurs. En outre, sitôt le gros livre première édition publié, il serait incomplet et appellerait un gros livre seconde édition revue et augmentée de la description complète du gros livre première édition. Et ainsi de suite. Aussi, pour des raisons de cohérence et d'économie éditoriale, ne nous gênons pas pour admettre que ce gros livre n'est pas une partie du monde qu'il décrit et que le grammage du papier est nul, on pourra même en faire un livre de poche. Le livre serait instructif à ce titre. Quoiqu'un peu rébarbatif, mais ce qui le rend plus intéressant aux yeux de Wittgenstein, ce n'est pas tant ce qu'il contient que, justement, tout ce qu'il ne contient pas, tout ce sur quoi le livre ne peut que se taire. Ainsi poursuivit Wittgenstein. Et le point où je veux en venir, c'est que ce livre ne contiendrait rien que nous appellerions un jugement éthique, ni quoi que ce soit qui impliquerait logiquement un tel jugement. Naturellement, il contiendrait toutes les propositions scientifiques vraies, et en fait toutes les propositions vraies qui peuvent être formulées. Mais tous les faits décrits seraient en quelque sorte au même niveau, et de même toutes les propositions seraient au même niveau. Il n'y a pas de proposition qui, en quelque sens absolu, soit sublime, importante ou triviale. Par exemple, si nous lisons dans notre livre du monde la description d'un meurtre, avec tous ses détails physiques et psychologiques, la pure description de ces faits ne contiendra rien que nous puissions appeler une proposition éthique. Le meurtre sera exactement au même niveau que n'importe quel autre événement, par exemple la chute d'une pierre. Assurément, la lecture de cette description pourrait provoquer en nous la douleur, la colère ou toute autre émotion, ou nous pourrions lire quelle a été la douleur ou colère que ce meurtre a suscité chez les gens qui en ont eu connaissance, mais il y aurait là seulement des faits, mais non de l'éthique. L'éthique, si elle existe, est surnaturelle, alors que nos mots ne veulent exprimer que des faits. Comme une tasse à thé qui ne contiendra jamais d'eau que la valeur d'une tasse, quand bien même j'y verserai un litre d'eau. Wittgenstein, conférence sur l'éthique. Curieuse image que cette tasse impuissante à recueillir plus d'eau qu'elle n'en peut contenir. Il me vient à l'esprit qu'au Japon, verser généreusement le saké jusqu'à ras-bord est une marque de politesse, et parce qu'il est bon d'en faire trop dans la politesse, surtout au Japon, il est courant de voir votre hôte servir le saké au-delà du bord de la tasse. Et l'on pourrait se récrier avec Wittgenstein, mais enfin une tasse à saké ne contiendra jamais de saké que la valeur d'une tasse, quand bien même j'y verserai un litre de saké. Mais c'est sans compter une subtilité de vaisselle. Une large soucoupe est placée sous la tasse à saké, destinée à recueillir l'excédent. Et après avoir bu la tasse, vous boirez la soucoupe. La soucoupe de forme carrée a fini par être précisément conçue pour cet usage. Mais il y a un hic. Par politesse, c'est la soucoupe qu'il est maintenant convenu de remplir jusqu'à ras-bord. Encore quelques décennies de raffinement de politesse et je prévois que ce sera le plateau sous la soucoupe qu'il faudra remplir. Pourrait-on faire de même en plaçant la tasse du langage sur une soucoupe de métalangage qui pourrait recueillir et exprimer ce qui en déborde? Mais faudra-t-il alors un métalangage sous le métalangage? Bref, après cette digression, permettez-moi de resservir un litre de café dans votre soucoupe et reprenons sur Wittgenstein et son expérience de pensée du gros livre. Pour la comprendre un peu mieux, il est en fait indispensable de se pencher de plus près sur le terrible et fameux Tractatus Logico-Philosophicus. Ce petit traité pourrait être lu comme une préface au gros livre. L'idée générale du Tractatus, oui, c'est le petit nom qu'on donne à ce petit livre. Attention à ne pas prononcer Tractacus comme un profane. L'idée générale du Tractatus, donc, est fascinante. Tracer à l'intérieur du langage les limites de ce qu'un langage, quel qu'il soit, peut exprimer. Et donc les limites de ce que le gros livre pourra contenir. C'est une approche qui n'est pas sans rappeler la démarche transcendantale de la critique de la raison pure. Kant étudiait les conditions de possibilité de la connaissance, autrement dit, il cherchait à répondre à la question « Que puis-je connaître ?» Wittgenstein, dans le Tractatus, radicalise encore la démarche en s'interrogeant sur les conditions de possibilité du langage, ou plus exactement, d'un langage pourvu de sens. En somme, on se demande « Que puis-je dire ?» qui est un sens. Il semble en effet nécessaire de répondre à cette question pour que n'importe quelle question, dont celle-ci, puisse se poser. Pour la traiter, Wittgenstein développe une conception très générale du langage et de son rapport au monde ou à la réalité. Ces mots dans le Tractatus semblent surtout servir à désigner de façon générale ce dont le langage veut parler. L'idée centrale de sa théorie de la signification est alors la suivante. Le monde se décompose en une diversité de faits et une proposition est vraie dans la mesure où elle est l'image logique d'un fait. Expliciter cette notion d'image logique d'un fait est un des principaux enjeux du Tractatus, dont je ne saurais décemment rendre compte en quelques pages. Mais en première approximation, on pourrait dire qu'il s'agit de représenter une certaine configuration d'éléments de la réalité au moyen d'une configuration d'éléments du langage. Cette configuration d'éléments du langage est ce qu'il appelle une proposition, tandis que la configuration d'éléments de la réalité qu'elle représente sert à figurer un fait possible. Ludwig, pose ce tisonnier, je t'en prie, je suis bien obligé de simplifier un petit peu les choses. De là, très grossièrement, on peut dire que la vérité d'une proposition résidera dans sa correspondance à un fait. Par exemple, la proposition « Wittgenstein était à Cambridge en 1929 » est rendue vraie par le fait que Wittgenstein était à Cambridge en 1929. Expliquer cela comme je viens de le faire, c'est-à-dire au moyen d'un langage, pose l'apparent problème que, pour désigner le fait, je n'ai pu que répéter la proposition en ôtant les guillemets, ce qui semble une pure convention n'expliquant rien. Il faut bien comprendre qu'il est inévitablement délicat d'exprimer dans le langage le rapport du langage au monde. Cette difficulté est abyssale. C'est désespérément que nous donnons du front contre les murs du langage, dirait le sage autrichien, avant de me donner un violent coup de tisonnier pour illustrer son propos. Une proposition est fausse quand, au contraire, elle ne correspond pas à un fait, mais que l'on peut concevoir un fait qui la rendrait vraie. Par exemple, Wittgenstein se tient derrière moi un tisonnier à la main est faux, mais le fait qui rendrait cette proposition vraie est tout à fait concevable. Je l'imagine parfaitement. Il y a deux cas limites de la proposition pourvue de sens selon Wittgenstein, la tautologie et la contradiction. Les tautologies, c'est-à-dire les vérités purement formelles, comme « a » ou « non a », sont vraies quel que soit le monde. Elles ne correspondent donc à aucun fait en particulier. De même, une contradiction est fausse quel que soit le monde et ne peut donc correspondre à aucun fait. Mais tautologie et contradiction sont très différentes des propositions mal formées que Wittgenstein appelle « unsinnig », c'est-à-dire « dénuées de sens ». Tautologie et contradiction, qui sont des propositions bien formées, sont seulement appelées « sinnlos », c'est-à-dire « de sens vide ». Elles ont un sens, mais ce sens ne nous dit rien du monde où nous sommes. Pour être encore plus exact, le sens d'une proposition dans le Tractatus n'est pas tant la correspondance à un fait en particulier que la façon dont la proposition établie sur l'ensemble de tous les mondes possibles dont le langage pourrait parler, le sous-ensemble de mondes où la proposition est vraie. Chaque sous-ensemble de l'ensemble des mondes possibles correspond donc au sens d'une proposition. Tautologie et contradiction correspondent alors aux deux cas extrêmes de ce sous-ensemble. Dans le cas d'une tautologie, l'ensemble des mondes où la proposition est vraie inclut tous les mondes possibles. Dans le cas de la contradiction, il n'inclut rien. Dans les deux cas, cela ne permet pas de distinguer entre des mondes où la proposition est vraie et d'autres où elle est fausse. C'est dans cette mesure que leur sens est vide. Il ne fait aucune différence. Enfin, une proposition qui, parce qu'elle est mal formée, ne pourrait correspondre à aucun fait concevable, ce serait une proposition simplement dénuée de sens, unsinnig. Une telle proposition n'exprime strictement rien, et c'est là ce qui trace la limite de la signification. Ce que le langage peut exprimer, ce sont seulement des faits, mais non de l'éthique. Qu'est-ce en effet qu'une proposition proprement éthique ? Ce serait une proposition qui exprimerait un devoir absolu ou une valeur absolue, une valeur qui, justement, ne peut pas être réduite à des faits. Cette conception recouvre en fait aussi bien les valeurs éthiques qu'esthétiques. Aux yeux de Wittgenstein, ces dernières relèvent du même non-sens. Il n'y a pas de distinction nette entre les deux champs. Qu'un meurtre ait lieu, par exemple, ce n'est qu'un fait. Et la proposition « ce meurtre a eu lieu », ainsi que tous les détails du meurtre et de ses effets sur le monde, seraient décrits dans le gros livre. Mais la proposition « ce meurtre est un mal » ou « ce meurtre est un fait qui importe moralement davantage que la chute d'une pierre » ne s'y trouverait pas, car elle ne correspond à aucun fait. Les propositions « ce meurtre a causé beaucoup de souffrance »,« ce meurtre est blâmé par telle et telle communauté humaine » seraient sans doute écrites dans le gros livre parce qu'elles correspondent bien à des faits, mais ces propositions ne sont pas éthiques en elles-mêmes et n'impliquent pas de propositions éthiques. Vous ne pouvez pas en tirer « ce meurtre est mal » à moins de supposer quelques principes plus généraux comme « ce qui cause de la souffrance est mal » ou ce qui est généralement blâmé par des communautés humaines est mal. Or, ces propositions ne semblent pas correspondre à des faits et ne devraient pas être inscrites dans le gros livre. Toute morale conséquentialiste, qui assigne donc un objectif à la morale, commence par poser un tel principe, une sorte d'axiome moral, permettant d'évaluer certaines situations comme moralement meilleures que d'autres, qui ne correspond à aucun fait et serait donc dénué de sens aux yeux de Wittgenstein. L'idée centrale est là. Il n'y a pas de fait de valeur absolue, pas de fait éthique. Or, s'il n'y a pas de fait auquel une proposition puisse correspondre, c'est qu'elle n'a pas de sens. Les propositions éthiques sont donc dénuées de sens. Elles semblent vouloir dire quelque chose du monde, mais elles n'expriment en fait tout simplement rien. Telle est la leçon du gros livre. Et il y a ceci d'étrange que, bien que ce gros livre contienne toutes les propositions vraies qui puissent être exprimées, cette importante leçon qu'on en tire n'y est pourtant pas contenue. Les propositions éthiques sont dénuées de sens. Elle non plus n'est pas vraie à strictement parler, elle est tout aussi dénuée de sens. Et ainsi de suite. On en vient ainsi à reconnaître que la seule façon correcte de parler d'éthique est de ne pas en parler. Voilà pourquoi l'injonction finale du Tractatus, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence, a une dimension éthique. Mais cet aphorisme non plus n'a pas sa place dans le gros livre, il n'exprime aucun fait. Ce qu'il cherche à exprimer est au-delà de ce que le langage peut exprimer. Parfaitement comprendre cette formule, c'est paradoxalement comprendre qu'elle est dénuée de sens et qu'on ne peut donc pas la comprendre à strictement parler et que, de même, l'ensemble du Tractatus est dénué de sens. Il faut, précisait Wittgenstein dans l'avant-dernière proposition de l'ouvrage, jeter l'échelle après être monté. Et il ne reste plus qu'à garder le silence. Je le brise toutefois, et après tout Wittgenstein l'a brisé lui-même pour prononcer une conférence sur l'éthique qui, en toute rigueur, aurait dû être un long silence, pour ajouter quelques mots. D'une part, le silence de Wittgenstein sur l'éthique ne signifie en aucune façon qu'il n'y accorde pas d'importance, tout au contraire. Ainsi écrivait-il au sujet du Tractatus. « Mon livre consiste en deux parties. Celle ici présentée, plus ce que je n'ai pas écrit. Et c'est précisément cette seconde partie qui est la partie importante. Mon livre trace, pour ainsi dire, de l'intérieur les limites de la sphère de l'éthique, et je suis convaincu que c'est la seule façon rigoureuse de tracer ces limites. En bref, je crois que là où tant d'autres aujourd'hui pérorent, je me suis arrangé pour tout mettre bien à sa place en me taisant là-dessus. » Lettre de Wittgenstein à Ludwig von Fricker. Sous son aspect de froid livre de logique, le Tractatus serait donc un texte dont la visée est avant tout éthique. Ce qui est important, c'est tout ce qu'il ne contient pas et ne peut pas contenir, tout ce qui déborde de la tasse du langage dont le livre s'efforce de tracer les bords logiques. L'importance qu'il accorde à cette dimension éthique est encore soulignée de façon éloquente dans les derniers mots de sa conférence sur l'éthique où transparaît un fond de pensée mystique. Wittgenstein écrit « Tout ce à quoi je tends, et je crois ce à quoi tendent tous les hommes qui ont une fois essayé d'écrire ou de parler sur l'éthique ou la religion, c'est d'affronter les bornes du langage. C'est parfaitement, absolument sans espoir de donner ainsi du front contre les murs de notre cage. » Mais l'éthique nous documente sur une tendance qui existe dans l'esprit humain, tendance que je ne puis que respecter profondément quant à moi et que je ne saurais sur ma vie tourner en dérision. Wittgenstein, conférence sur l'éthique. Une remarque finale. L'argument du gros livre de Wittgenstein est souvent comparé à la fameuse guillotine de Hume. C'est ainsi qu'on appelle le principe attribué à David Hume, selon lequel on ne peut pas passer logiquement d'un « est » à un « doit être ». Autrement dit, la description de ce qui est ne peut jamais suffire à impliquer logiquement la prescription de ce qui doit être. Mais que vient faire une guillotine dans tout cela, me direz-vous ? Eh bien, je n'en sais rien. Je n'ai jamais trouvé l'origine de cette expression. Mais ce principe de Hume semble en effet couper l'herbe sous le pied de bien des philosophies morales. Quelques livres pour aller plus loin. Ludwig Wittgenstein, Conférence sur l'éthique, Gallimard 2008. Cette édition très bien réalisée complète le bref texte de la conférence par des extraits des notes de Friedrich Weizmann sur ses conversations avec Wittgenstein, ce qui donne plus que jamais l'impression que le cryptique autrichien est traité comme un sage de l'Antiquité dont les disciples notent fidèlement chaque parole, et par un dossier présentant la vie du philosophe et divers aspects de sa pensée. Ludwig Wittgenstein, Le cahier bleu et le cahier brun. Gallimard, collection Tell, 2004. L'auteur du Tractatus Logico-Philosophicus et de la conférence sur l'éthique n'est que le premier Wittgenstein. Après son retour à Cambridge, sa pensée va beaucoup évoluer et remettre en cause certaines de ses idées les plus importantes, en particulier celles qui concernent la nature de la signification comme image logique des faits. Tout en restant fidèle à l'idée que les problèmes philosophiques naissent de mécompréhension quant à la nature du langage, le second Wittgenstein sera beaucoup plus attentif à ses nombreuses dimensions pragmatiques, ne cherchant plus à établir une forme générale de la proposition, mais étudiant plutôt la diversité des jeux de langage. Rien ne sera publié du vivant de Wittgenstein, mais la plus grande partie des travaux datant de cette seconde période de sa vie sera publiée de façon posthume. Le cahier bleu n'est pas son texte le plus connu, mais il constitue le premier exposé de la pensée de ce second Wittgenstein, et c'est surtout le seul dont la présentation suit un ordre, ce qui le rend beaucoup plus agréable à lire. Le reste de ses travaux, en particulier les recherches philosophiques, consiste plutôt en des suites de remarques plus ou moins brèves, dont on peine bien souvent à voir le fil conducteur. Notez que le cahier bleu est presque toujours édité en compagnie d'un texte très différent portant un titre similaire, le cahier brun. Wittgenstein y multiplie à nauseam des expériences de pensée sur divers jeux de langage. Amusant sur quelques pages, cela devient vite fatigant. Ray Monk, Wittgenstein, le devoir de génie, Flammarion, 2009. Comme je l'évoquais au début de ce chapitre, il me semble que la vie et la personnalité de Wittgenstein sont particulièrement fascinantes, et il n'y a sans doute pas de meilleure façon de les découvrir qu'à travers cette excellente biographie de Ray Monk, qui peut aussi servir d'introduction à la pensée de Wittgenstein, ou tout au moins d'invitation à l'étudier de plus près.